Une fois, j'ai parlé à une veuve qui m'a expliqué comment elle s'y prenait pour que son mari défunt lui apparaisse. Seulement, il se manifestait sous une forme extrêmement grotesque qu'elle m'a décrite et qui, je dois le dire, m'a fait froid dans le dos. Le prophète Daniel aussi a reçu plusieurs visites d'esprit et une fois, il a même été terrassé par la vision. Mais quand il lui parlait, il prenait l'aspect d'un homme ordinaire. Nous arrivons au chapitre 10, où commence la dernière prophétie du livre de Daniel. Comme précédemment, c'est donc un ange qui instruit Daniel concernant l'avenir de son peuple. Cette fois-ci, il lui parle en termes légèrement voilés et un peu plus mystérieux qu'auparavant. Le contenu de cette nouvelle révélation, qui couvre les trois derniers chapitres du livre, est essentiellement le même que celui de la vision du chapitre 8, où il a été question de la lutte entre le bélier et le bouc, entre la Perse et la Grèce, et du triomphe de cette dernière, ainsi que des monarchies qui furent issues de l'empire d'Alexandre le Grand. Cependant ici, la vision est beaucoup plus développée que dans le chapitre 8, en particulier en ce qui concerne les deux monarchies égyptiennes et syriennes issues de l'empire grec, et plus particulièrement la dynastie des Séleucides, d'où est sorti l'infâme Antiochus IV Épiphane qui régna sur la Syrie. Ce que le chapitre 8 a révélé concernant la Perse ainsi que l'apparition et la dislocation de l'Empire grec ne sera rappelé que très sommairement pour devenir le point de départ de l'histoire des luttes entre l'Égypte et la Syrie jusqu'à la venue de la petite corne, le roi Antiochus, qui a été surnommé l'Antéchrist de l'Ancien Testament à cause de son hostilité ouverte contre le temple de Jérusalem et de la nation juive. Le thème central du livre de Daniel, à savoir la souveraineté de Dieu et l'antagonisme entre les empires de ce monde et le royaume de Dieu, est encore la trame qui sous-tend cette dernière vision. Mais on est surpris par le caractère détaillé et même minutieux des révélations, car ce genre prophétique est tout à fait unique et ne se retrouve nulle part ailleurs, ni dans l'Ancien Testament, ni dans les visions précédentes du livre de Daniel. Le chapitre 10 prépare la révélation du chapitre suivant en indiquant les circonstances dans lesquelles elle s'est produite et en introduisant plusieurs personnages célestes qui sont impliqués dans cette vision. Ces chapitres nous transportent dans l'au-delà où se joue véritablement l'histoire humaine. Le rideau qui nous cache le monde invisible est partiellement et momentanément levé et on peut voir les esprits qui orchestrent les destinées des dirigeants, des peuples et des royaumes ici-bas. L'objectif de ces prophéties n'est pas de satisfaire la curiosité morbide d'un amateur de sensations fortes, car cet enseignement est destiné aux croyants afin qu'ils sachent que le combat qui se livre sur la terre, entre la lumière et les ténèbres, entre le peuple de Dieu et les puissances de ce monde, correspond à une lutte analogue qui se déroule dans le monde spirituel entre les démons et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Il faut en effet savoir que dans l'éternité passée, les êtres célestes ont eu, apparemment une seule fois, la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Certains ont alors décidé de se rebeller contre l'Éternel et de suivre Satan quand il a tenté un coup d'État contre lui. Ils sont alors devenus ce qu'on appelle des démons, mais ont gardé le rang hiérarchique qu'ils occupaient quand ils étaient des anges. Ces esprits sont dits méchants ou mauvais et sont souvent mentionnés dans les évangiles car Jésus les chassait partout où il allait. Tous les êtres célestes, invisibles, qu'ils soient bons ou mauvais, sont répartis en hiérarchie et chaque ordre a sa propre autorité, compétence et degré de pouvoir. L'apôtre Paul écrit « Car c'est en Jésus-Christ qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Ce qui est visible est sur la terre et les êtres invisibles sont dans les cieux. Les trônes correspondent peut-être aux archanges comme Michel et Gabriel, les seigneuries aux chérubins et séraphins. Les autorités sont des chefs de troupes et les puissances des anges ordinaires, bien que tous les êtres de lumière sont plutôt extraordinaires et certains sont des anges gardiens. Cette vision, qui inclut ce qui se passe dans le monde invisible, avait pour but de fortifier et d'encourager les Israélites pieux en leur montrant qu'ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes pour lutter et vaincre, et que derrière leurs ennemis visibles se cachaient des esprits méchants et qu'ils pouvaient compter comme alliés des principautés et des puissances célestes fidèles à l'Éternel. L'apôtre Paul écrit « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Tout comme les anges au service de Dieu, les puissances du mal sont organisées selon un ordre hiérarchique. Au sommet, les chefs sont chargés d'orienter la politique des nations et fréquentent les couloirs des chancelleries. Leurs sous-fifres s'occupent des affaires courantes d'un pays dans tous les domaines. D'autres encore supervisent les religions du monde. Beaucoup de gens pensent que Satan est contre tout ce qui est religieux, mais pas du tout, puisque c'est lui qui les a toutes inventées et qui fait leur promotion. Avec les religieux, il est tranquille, car ils ont leurs besoins spirituels plus ou moins satisfaits par leurs fausses croyances. Par contre, il n'a guère confiance dans les athées parce qu'il sait que s'ils se mettent à réfléchir en leur âme et conscience, et s'ils considèrent l'univers tel qu'il est, ils vont se rendre compte que de ne pas accepter l'existence d'un Dieu créateur est absurde. C'est vrai qu'il a réussi un coup de maître en convainquant la plupart des scientifiques que les êtres vivants ne sont rien d'autre qu'un ramassis d'atomes qui a évolué à partir de rien. Comme lavage de cerveau, on ne fait pas mieux. Je commence maintenant à lire le chapitre 10 du livre de Daniel. Durant la troisième année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belshazzar. Cette révélation est authentique. Elle annonce de grandes calamités. Daniel fut attentif à la parole et il en reçut la compréhension dans une vision. Verset 1. Dans le verset suivant, l'auteur s'identifie en disant « En ces jours-là, moi, Daniel ». Ce qui semble indiquer que ce premier verset est une introduction qui a probablement été écrite par la personne qui a rassemblé les prophéties pour en faire un livre et le publier. En tout cas, cet éditeur veut qu'on sache avec certitude que les prophéties qui vont suivre sont la vérité, même si elles annoncent de grandes calamités, littéralement une grande guerre. Nous sommes dans la troisième année de l'intronisation de Cyrus comme roi de Babylone et environ 2 ans après qu'il ait signé le décret autorisant les Juifs à rentrer chez eux. Un premier contingent d'environ 50 000 hommes avec leur famille a déjà fait le voyage sous la conduite d'un certain Zorobabel. Daniel a décidé de ne pas retourner dans son pays, ce qui se comprend facilement du fait qu'il occupe des hautes fonctions dans l'État et qu'il est donc plus utile à son peuple à Babylone qu'à Jérusalem en train de déblayer les gravats, surtout qu'à cette époque il doit avoir au moins 85 ans. Je continue. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchais à aucun mets délicat, je ne pris ni viande ni vin, et je ne me frottais d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Verset 2. L'utilisation d'huile odoriférante servait à adoucir et parfumer la peau. Cette pratique était répandue dans tout l'Orient et surtout pour les fêtes, les banquets, les célébrations, et pour mettre fin à un jeûne. Mais on ne se parfumait pas en période de détresse. Maintenant que les Israélites ont reçu l'autorisation de retourner chez eux et de reconstruire le temple, un avenir serein s'ouvrait à eux et Daniel aurait dû baigner dans le bonheur. Malheureusement, il fut de courte durée. En effet, selon ce que raconte le livre du prêtre Esdras, dès que les Israélites ont commencé à rebâtir, les non-juifs qui habitaient la Palestine se sont opposés à eux de toutes les manières possibles. Je lis un passage. « Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Le plus douloureux est qu'ils bénéficiaient de l'aval des autorités perses. » Ce n'est pas tout. Selon les annales de Nabonide, dont j'ai déjà parlé, Cambyse II, le fils de Cyrus, serait devenu roi de Babylone le 4 du mois de Nissan en 535 avant Jésus-Christ, 5 ans avant de succéder à son père comme empereur. Cette date pourrait coïncider avec le début du jeûne de 3 semaines de Daniel qui craignait pour son peuple car cet homme était méchant et particulièrement hostile aux cultes étrangers et donc à la reconstruction du temple. Tous ces événements étaient suffisamment graves pour perturber Daniel au point où il a pris le deuil et s'est humilié devant Dieu dans la prière, ce qui est précisé plus loin. Il faut remarquer que quand les choses vont mal, Daniel se tourne vers l'Éternel et persévère dans la prière. Il insiste et tambourine la porte des cieux jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. À lire cela, je me sens réprimandé par l'exemple de Daniel, car combien de fois je fais une petite prière à la va-vite parce que j'ai soi-disant des choses importantes à faire. Il est probable qu'il m'arrive de faire des commentaires qui vous agacent, mais pensez à ma situation. J'étudie la parole de Dieu en détail et je ne saurais dire le nombre de fois où elle pointe son doigt accusateur sur moi. Je continue le texte. Le 24e jour du premier mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre. Verset 4. Le calendrier juif avait 2 premiers mois, celui de l'année religieuse qui commençait en mars-avril, et le 15 de ce mois on célébrait la Pâque. Ensuite il y avait le premier mois de l'année civile, qui est à cheval sur septembre-octobre, et le 10 avait lieu le jour du grand pardon ou Yom Kippour. Que ce soit l'un ou l'autre, il commençait avec la nouvelle lune et donnait lieu à des festivités qui duraient 2 jours. Au moment de cette vision, Daniel se trouve physiquement présent au bord du fleuve Tigre, le 24e jour du premier mois. Nous sommes donc soit le dernier jour des 3 semaines de deuil qui auraient donc commencé le 3 ou le 4 du mois, selon la façon de compter, soit 3 ou 4 jours après la fin de ce même deuil. Le texte donne beaucoup de détails, mais pas suffisamment, et de plus, il nous manque le contexte de tous ces événements pour qu'il soit possible de donner des dates dont on soit sûr. Je continue. Je levai les yeux et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or d'Ouphaz autour des reins. Verset 5. Cette manifestation surnaturelle a lieu au-dessus des eaux du fleuve. L'habit de lin était le vêtement des prêtres et représente la sainteté, et la ceinture d'or est un emblème de royauté. Ouphaz était réputé pour son or fin, mais sa localisation est incertaine. Je continue. Son corps luisait comme de la topaze. Son visage flamboyait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes. Ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Verset 6. La topaze, aussi appelée chrysolite, est d'un jaune d'ambre pareil à de l'or transparent, mais d'une couleur plus riche et plus éclatante. La description de cet être de lumière, dont le corps resplendit à travers le vêtement de lin, rappelle celle des 4 êtres vivants qu'a vu Ézéchiel, mais aussi la transfiguration de Jésus et surtout la vision de l'apôtre Jean du Christ ressuscité. Je lis ce passage. « Je vis au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. » Daniel aura la même réaction que l'apôtre Jean. Il tombe face contre terre. Cette apparition, appelée simplement un homme, est un être dont la dignité est bien supérieure aux anges ordinaires. Ce ne peut pas être l'archange Michel qui est mentionné plus loin, car il doit venir porter main forte à l'ange qui fut envoyé à Daniel. Cet homme céleste est probablement le même que celui qui, du milieu du fleuve Oulaï, avait ordonné à Gabriel d'expliquer à Daniel la vision et qui précédemment est appelé respectivement prince de l'armée céleste, puis prince des princes. En comparant ce texte à d'autres, comme je l'ai fait, on peut être quasiment certain qu'il s'agit de l'ange de l'Éternel sous une forme glorifiée, ce qui correspond non pas à une pré-incarnation de Jésus-Christ, mais plutôt à son état actuel après sa résurrection, comme l'a vu l'apôtre Jean dans son rôle de prêtre, intercesseur et de juge. Il est intéressant de remarquer que dans le livre de Daniel, il y a une progression dans la façon dont les prophéties concernant le futur de l'humanité et d'Israël sont transmises. Ce fut d'abord un songe donné au roi païen Nabuchodonosor, puis une parole écrite par une main invisible à Balthazar, un autre roi païen. Ensuite, l'avenir a été révélé à Daniel lui-même par un songe. Puis, c'est un ange qui entoure le vieillard âgé de nombreux jours qui lui explique la révélation. Plus tard, Daniel a une vision alors qu'il est en transe prophétique et l'ange de l'Éternel, qui reste caché, ordonne à Gabriel de la lui expliquer. Ensuite, Gabriel vient en personne en réponse à la prière de Daniel pour lui apporter la prophétie des 70 septaines. Enfin, cet homme céleste, qui n'est autre que l'ange de l'Éternel, apparaît à Daniel, mais ici il ne lui parlera pas directement. Je continue le texte. « Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et coururent se cacher. » Verset 7. Daniel était probablement en voyage d'affaires et comme il occupait un très haut rang dans l'Empire, il devait avoir une suite nombreuse composée de gardes du corps, de secrétaires et toute une intendance. Cet incident fait penser à l'histoire de Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, lorsqu'il était en route pour Damas avec des intentions fort malveillantes à l'égard des chrétiens. Lui et ceux qui l'accompagnaient ont vécu une expérience similaire à celle de Daniel. Je lis le passage. « Les compagnons de voyage de Paul restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. » Fin de citation. Je continue le texte de Daniel. « Je demeurais donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces, je devins tout pâle. Et mes traits se décomposèrent, je me sentais défaillir, j'entendis le personnage prononcer des paroles, et en entendant sa voix, je m'évanouis et je tombais la face contre terre. » Versets 8 et 9. Le mot hébreu rendu par « mes traits se décomposèrent » est traduit par « visage défiguré » dans le passage d'Ésaïe qui prophétisait la crucifixion du Christ. À la vue de cet être majestueux, Daniel se sent d'abord défaillir, puis dès qu'il entend sa voix, il perd connaissance et s'effondre anéanti. Cette apparition grandiose a produit sur lui un effet beaucoup plus marquant que celui qu'il a ressenti devant l'ange Gabriel, et il aura du mal à s'en remettre. Daniel était un géant spirituel et un homme pieux qui n'avait pas d'égal. Il menait une vie absolument droite et nul ne pouvait lui faire le moindre reproche. Et pourtant, devant cette vision de la gloire divine, il a perdu tous ses moyens et a été littéralement terrassé. Moi, ça m'effraie et je me demande aussi quelle peut bien être la réaction d'un homme pécheur incrédule et non repentant quand il doit comparaître devant son Créateur. Je continue le texte. Alors une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Verset 10. Daniel sent le contact d'une main qui, en le touchant, le fait sortir de sa torpeur. Cet être angélique qui vient réconforter Daniel ne peut pas être celui qui, par sa gloire resplendissante, par sa simple présence et le son de sa voix, a terrassé Daniel. De toute façon, le passage dit une main et non pas sa main. L'ange de l'Éternel qui a tant impressionné Daniel ne veut pas l'effrayer davantage. Il a donc envoyé son aide de camp pour parler d'homme à homme avec Daniel ou quelque chose comme ça. Il serait logique de penser qu'ici encore il s'agit de l'archange Gabriel, car après tout Daniel est habitué à lui et n'en a pas peur. Seulement, le texte ne dit rien à ce sujet. Tout ce qu'on sait, d'après la suite, est que cet être céleste est très puissant. Comme je l'ai déjà dit, cette prophétie entr'ouvre la porte de l'au-delà et nous autorise à quelques regards furtifs. Alors, profitons-en.